L'invité de la rédaction, Valérie Vial.
Mon invité de la rédaction aujourd'hui s'appelle Francis Fischer. Il vit à Strasbourg, à l'Esplanade. Et c'est un collectionneur d'atlas de géographie. Il en a une très grande quantité. Également des manuels de géographie de l'enseignement primaire, donc des manuels scolaires, et des livres de cartographie. Alors, on parle de plusieurs centaines d'ouvrages qu'il garde précieusement chez lui, dont certains sont très anciens. Aujourd'hui, en 2025, collectionner des ouvrages papier relève de quelque chose d'un petit peu fou. Et en même temps, c'est forcément l'avenir des archives de la cartographie et également des atlas de géographie. Francis Fischer, bonjour.
Bonjour.
Enfin, ravi que vous me receviez chez vous aujourd'hui. Expliquez-nous cette passion des atlas géographiques. Comment elle est arrivée ?
Alors, j'ai longtemps réfléchi. J'avais commencé à accumuler des atlas en n'ayant pas encore conscience que j'avais une collection. La conscience a dû venir lorsque j'avais 23-24 ans et que je me suis rendu compte que j'avais une vingtaine de bouquins dont certains ne tenaient pas sur une étagère normale tellement ils étaient d'un format important. Mais si on veut remonter beaucoup plus loin, dans l'enfance, je me rappelle avoir aidé ma mère à faire des mots croisés dans l'édition française du Rhin français de Colmar. Je suis colmarien, donc j'étais devenu un spécialiste des départements en quatre lettres et des rivières, des cours d'eau en deux ou trois lettres, hein, l'Aube, l'A, le Tay, le Lys, l'Ille, par exemple. Et ma mère, dans un souci de pédagogie, me disait chaque fois, quand elle avait fini sa grille, ou le soir, on va regarder où c'est tous ces trucs-là. Alors, je savais où était le Gers, où était le Jura, voilà. Et nous regardions, évidemment, dans le dictionnaire Larousse qu'elle avait reçu à Sainte-Marie-aux-Mines dans les années 30, lorsqu'elle avait réussi son certificat d'études primaires. Ensuite, deuxième machin, je me baladais avec un oncle à ma mère qui était en quelque sorte mon grand-père maternel et il m'avait appris à regarder un paysage. C'était dans un petit village de la vallée de Münster et il m'a montré, alors nous étions la carte à la main, on se baladait autour de Sulzbach-les-Bains. Et donc, il me montrait le paysage, ce que c'était qu'une ligne de crête, ce que c'était qu'une limite. Et en même temps, sur la carte, il me montrait, comme par miracle, si on orientait correctement la carte, on pouvait voir sur la carte ce qu'on voyait dans le paysage. Je pense que c'est là que j'ai dû attraper le virus. Je devais avoir au maximum 12 ans. On peut dire que 65 ans après, je ne suis toujours pas guéri.
Donc, une grande collection. Est-ce que c'est une collection qui vit, c'est-à-dire que vous vous servez aujourd'hui de certains ouvrages, vous les ouvrez et vous continuez à découvrir ainsi et les rivières et les cours d'eau et les montagnes?
Oui, absolument. Parce que l'Atlas, en quelque sorte, c'est une compilation de cartes qui quelquefois était discrétionnaire. Bon, parce qu'il faudrait râler sur l'histoire de la carte. Et ça sert à regarder, enfin pour moi, je les feuillette. Je souhaite comprendre les cartes et d'ailleurs si j'ai poursuivi ces investigations, c'est parce que entre la géographie de ma mère qui nous montrait les pays européens et mon propre manuel de géographie qui nous montrait l'Europe des années 50-60, les frontières n'étaient pas les mêmes, ou même des pays avaient complètement disparu, comme par exemple les pays baltes. Et donc moi ça m'intéressait et j'ai systématiquement cherché à savoir pourquoi la carte existait, qu'est-ce qu'elle montrait et pourquoi cette carte était différente d'une autre qui pourtant avait le même titre et quelquefois la même échelle. Donc je me suis intéressé à l'histoire de ce que je voyais, à la configuration des paysages, à la construction d'un paysage qu'on regarde. Le paysage, il n'a pas besoin d'être beau, il n'a pas besoin d'être romantique. Le paysage, il existe et on le regarde. Ensuite, on en pense ce qu'on veut, mais par définition, un paysage naturel est toujours un beau paysage.
550 atlas de géographie, 100 livres de cartographie, 150 livres de manuels scolaires. Alors, on entend qu'il y a forcément un coût à tous ces ouvrages, mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a une cote des atlas sur le marché des collectionneurs ?
Oui, il y a effectivement un certain nombre. Alors, en France, même en France, en Allemagne, en Suisse, il y a des libraires anciens c'est évident. On en a quelques-uns également à Strasbourg, mais Strasbourg n'est pas un haut lieu de la cartographie, bien que la Bibliothèque nationale universitaire dispose de vraisemblablement plus de 1500 atlas et plus de 15 000 cartes. Il existe effectivement une cotation. On sait très bien que telle et telle édition d'un atlas Stieler qui est sorti en 1865, ça vaut au minimum 400 euros. Bon, il y a 50 ans, ça pouvait se trouver pour 50 francs. Mais c'est pas mon sujet. Mon sujet, je suis content.
Bien sûr.
Bon, voilà, je suis content de voir que l'atlas a pris de la bouteille, mais ça ne m'incite pas à le vendre. Je n'autofinance pas ma collection, je ne gagne pas vraiment d'argent, ma collection, c'est un peu comme d'autres pourraient avoir une danseuse.
Vous rencontrez d'autres collectionneurs pour faire des échanges d'atlas ?
Oui, je fais partie d'un groupe informel allemand. Nous allons d'ailleurs nous réunir à Strasbourg en avril 2026, pendant 3 jours. Et là, on traite des sujets. Personnellement, je vais être amené à parler de la cartographie de l'Empire colonial français entre 1830 et 1962. Et il y a également des gens qui se connaissent entre eux. Il y a également le Comité français de cartographie qui organise une journée de l'histoire de la cartographie chaque année dans les locaux de la bibliothèque Richelieu, enfin les anciens locaux de la BNF. Et donc, des gens qui sont un peu dans la cartographie ancienne, enfin, il y a des réseaux qui se connaissent. Moi-même, je connais un certain nombre de personnes et on peut avoir des discussions très très importantes sur la représentation de l'enclave de Livia dans les Pyrénées orientales, par exemple. Voilà, des discussions qui pourraient être plutôt occultes pour des gens qui ne sont pas dans le coup, mais nous on est absolument passionnés par le sujet.
C'est une collection d'érudits, en fait.
Oui, à la fin, ça fait quand même plus de 60 ans que j'accumule des connaissances d'ordre cartographique, géographique, qui elles-mêmes ont varié. Il y a des toponymes qui ont disparu. Plus personne ne sait ce que c'est que l'Indochine, par exemple. Voilà, le Tanganyika, on ne sait plus très bien où c'est. On ne sait plus très bien si le Mont Blanc est en France ou pas, tel que le sommet a été défini, en tout cas. Est-ce que le sommet du Mont Blanc est en France ou pas? On n'en est pas tout à fait sûr. Il est peut-être en Italie. Donc, il se passe quelque chose. Alors moi, je ne me passionne pas vraiment pour... Je ne veux pas critiquer la cartographie contemporaine parce qu'elle est beaucoup plus répandue. Il y a partout des cartes, il y a partout des systèmes de navigation. Le système de navigation, c'est très bien parce que c'est lui qui choisit le chemin, ce n'est pas vous. Alors qu'ouvrir une carte Michelin, ça peut vous donner des idées pour ne pas aller...
Et pour prendre les chemins de traverse, comme on dit.
Prendre les chemins de traverse, oui. Moi, il m'arrive quelquefois, lorsque c'est ma femme qui conduit et lorsque nous allons de Strasbourg à Mulhouse, d'ouvrir la carte Michelin pour être sûr que le patelin que je vois là-bas sur la colline, il s'appelle bien comme ça et pas autrement.
Francis Fischer, parmi tous ces ouvrages, ces centaines d'ouvrages, quel est le plus ancien ?
Le plus ancien est un ouvrage qui m'a été offert par ma mère pour mon 40e anniversaire. C'est un ouvrage, un atlas scolaire, mais super chic. C'était pour des institutions où allaient les jeunes aristocrates, contemporains de Louis XVI et dont la cartographie a été faite par Rizzi Zanoni.
On mettra quelques photos sur nos réseaux pour évidemment illustrer vos propos.
Alors cet ouvrage scolaire n'a jamais été utilisé. En plus, et il contient en prime 2 cartes de Cassini. Et ma mère m'a dit, écoute, je te le paye pour ton 40e anniversaire. Mais c'était il y a très longtemps.
Et dites-moi, quel est l'ouvrage que vous avez le plus de mal à acquérir et dont vous êtes forcément aujourd'hui le plus fier, parce que vous êtes vraiment battu pour l'avoir
Ah, ça, c'est une bonne question, parce que je me suis souvent battu. Et donc, je ne me rappelle pas bien, mais c'est certainement un atlas édité en Allemagne dans les années 60 ou dans les années 1850, qui est ce qu'on appelle un atlas Stieler. Stieler, alors là, il y a une petite histoire. Il a été fait par un éditeur qui s'appelait Justus Perth, qui travaillait à Gotha et qui finançait ses recherches, ses éditions d'atlas à travers l'almanach du Gotha. Donc on rencontre du grand monde. Alors c'est cet atlas-là qui doit être la 3e édition.
Ça fait un petit peu partie, ça, le défi du collectionneur, c'est d'obtenir des pièces et de la suivre et de chercher l'endroit où il peut la trouver. J'imagine que dans n'importe quelle ville aujourd'hui de France où vous passez, vous allez faire les bouquinistes
À peu près.
Oui, c'est ça.
À peu près. Maintenant, c'est un petit peu différent parce qu'on trouve les gens sur Internet, on leur téléphone un petit peu quelques jours avant et ils disent « mais malheureusement, j'ai plus d'Atlas, j'en ai vendu un la semaine dernière. » Bon, ok, c'est toujours la même ringarde. Donc, c'est un petit peu moins, on voit un petit peu moins de libraires. Alors, ma zone de chalandise, si je puis dire, elle s'étend grosso modo de Juneau à Montevideo et on va dire de Helsinki à Bobo-Dioulasso, Burkina Faso.
Aujourd'hui, quel est l'ouvrage que vous n'avez pas encore réussi à obtenir et dont vous êtes sur la trace aujourd'hui, qui serait un peu le Graal pour vous? On ne sait jamais si un auditeur nous entend qu'il a ça au fond d'un placard.
Alors, c'est une obsession de 15 ans là, que vous réveillez.
Excusez-moi.
Je l'ai eu entre les mains à San Francisco. Non, à Vancouver. À Vancouver, je l'ai eu entre les mains. C'est un Atlas Capellen de 1903 qui a été édité à Oslo à l'occasion de l'indépendance de la Norvège. Je l'ai eu entre les mains, je faisais la fine bouche, je trouvais que la reliure était un peu abîmée, je trouvais que 25 dollars canadiens, c'était trop cher. Et puis finalement, je l'ai reposé sur l'étagère. Ce qu'il faut que je dise, c'est que j'en avais déjà acheté dans le même boutique, j'en avais déjà acheté 6 ou 7. Donc, ça commençait à poser un problème pour le chemin du retour.
Et aujourd'hui, vous vous en mordez les doigts de l'avoir reposé ?
Absolument, parce que je vais assez régulièrement le chercher sur Internet, enfin, voilà, un peu partout, et je ne l'ai plus jamais revu. C'est donc un ouvrage qui a été fait en 1903, au moment où la Norvège s'est séparée de la... Enfin, où les deux royaumes se sont séparés.
Alors, on n'aime pas parler de choses de mauvaise augure, hein, monsieur Fischer, mais vous m'en parlez en introduction, juste avant cette interview, cette collection immense. Qu'est-ce que vos descendants en feront le jour où vous ne serez plus là ?
Alors, mes enfants sont très sympathiques. D'abord, ils ne se sont jamais intéressés à la géographie. J'ai l'impression qu'ils sont un peu casaniers. Bon. L'aspect patrimonial ne les intéresse pas non plus, et donc ils sont tout à fait d'accord pour que j'en dispose à ma guise en disant « Papa, si tu t'étais acheté, si tu avais été fanatique de BMW ça aurait, ou d'une marque prestigieuse, ça aurait peut-être coûté plus cher. » Et donc j'ai décidé d'en faire un lait à une bibliothèque de la région. Et dans cette liste, je vais leur donner une liste, et dans cette liste, je considérerai un certain nombre d'ouvrages comme constituant le corps de cœur de ma collection, et je leur demanderai d'en garder l'intégrité. Après, il y a des doublons, il y a l'édition de 1922, l'édition de 1923, si vous en avez une, on n'a pas besoin d'avoir les trois autres. Et donc, je vais demander à cette bibliothèque, d'ailleurs, c'est fait, je suis en relation... régulière avec le conservateur et je pense qu'on aura l'indivisibilité, au moins une grande partie restera intégralement réunie.
Elle restera dans le coin, la collection ?
Oui, elle ne sera pas très loin, je pense que ce sera à Colmar.
Bah voilà, vous revenez sur vos terres. Francis Fischer, merci infiniment d'avoir répondu à mes questions. Écoutez, on vous souhaite encore une longue... une longue chasse, je ne sais pas comment on appelle, c'est les collectionneurs, c'est ça ?
Recherche.
Hein ? Recherche. Oui, écoutez, on vous souhaite plein de recherches et de trouver encore des trésors.
Quand vous dites recherche, vous laissez entendre aussi que de temps en temps, on étudie ce qu'on recherche. Et c'est un tout petit peu plus riche que la chasse.
L'invité de la rédaction, Valérie Vial.